Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
La dernière heure des grandes gueules du sport qui portent très bien leur nom. Ce matin, Alizé Cornet,
surtout Alizé Cornet.
Fred Weiss, Cédric Evance et Christophe Cessieux, que vous allez entendre jusqu'au bout de la nuit sur RMC, parce que ce soir il sera...
Pas trop tard, parce que demain matin je suis là, tu m'as convoqué.
t'es convoqué ?
Oui, tu m'as convoqué.
Alors, tu nous as dit, lendemain de France-Afrique du Sud, je dois absolument être là. C'est l'affiche évidemment de la soirée, France-Afrique du Sud, à 21h10, prise d'antenne dès 20h avec Denis Charvet, Johan Huger sera là également, Wilfried Templier, Julien Landry, Pierre Thévenet en envoyé, tout le monde. Demain, Philippe Saint-André sera avec nous dans les grandes gueules du sport pour revenir sur cette rencontre. Dans un instant, tiens, justement sur le buzzer, on va continuer à parler de ce match événement. Antoine Dupont n'est pas là, mais Thomas Ramos est-il le véritable patron des Bleus? C'est vrai qu'on le connaît peut-être pas assez, Thomas Ramos, on va apprendre à le connaître un petit peu plus. En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport, remportez votre maillot rugby sport d'époque fabriqué en France, le maillot que souhaite absolument avoir mais n'aura pas Christophe Cessieux, le maillot France 1958,
celui de la première. J'étais pané encore.
Ouais, mais le design te fait de l'œil. Celui de la première tournée victorieuse des Bleus en Afrique du Sud. Pour remporter votre maillot sport d'époque, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Inscrivez-vous maintenant pour participer. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'est toute la bataille, on en a déjà un petit peu parlé, psychologique avant France-Afrique du Sud. On sait que le manager des box, Rassie Erasmus, était entré dans la tête du staff des Bleus avant le quart de finale de Coupe du Monde il y a 2 ans. Cette semaine, il a donc récidivé. Moi, ce qui m'a le plus fait marrer quand même, c'est quand il a publié une heure avant la composition de Fabien Galthié sur les réseaux. Vous imaginez ça, un truc comme ça dans le foot? On hallucinerait. Après, bon, on savait tous qu'elle allait être la compo du 15 de France. Il y a moins de suspense, évidemment.
Ouais, mais il l'a fait.
Mais il l'a fait. Il l'a fait pour, dire toc toc, je suis là, je sais ce que vous allez faire. L'air de dire, effectivement.
Mais oui, parce que Galthié avait dit, il y a de l'espionnage, il faut lutter
exactement
contre l'espionnage.
Exactement.
Bah, tu vois, ton espionnage, regarde, moi, je te donne la compo avant toi.
Exactement. L'air de dire, vous avez voulu cacher des choses à l'entraînement cette semaine, je sais tout. Les GG, aujourd'hui, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. L'adversaire qui te rentre dans la tête. L'adversaire qui parfois te fait peur, comment est-ce que vous l'avez vécu, comment vous l'avez géré? Cédric, tiens, puisqu'on parle de rugby, l'adversaire qui te rentre dans la tête, ou le joueur qui te rentre dans la tête?
Non, alors déjà peur, non, mais en tous les cas, dans ma période, il y avait deux joueurs, c'était Aurélien Rougerie et Christophe Dominici. Tu savais que tu étais obligé de préparer ça de manière différente.
Ils jouaient au même poste que toi,
ouais, en concurrence, et en plus des concurrences pour l'équipe de France, ouais. Adversaires directs, deux joueurs au profil différent. Alors, me rentrer dans la tête, non, mais tu savais que tu étais obligé de t'arrêter sur eux, donc c'est ça, la vidéo marchait plutôt bien, sur les capacités de l'un ou de l'autre à me faire déjouer. Voilà. Alors, est-ce que c'est rentré dans la tête? Je sais pas. Mais en tous les cas, il y avait une approche un peu plus psychologique quand tu jouais face à eux.
Mais c'est-à-dire, quand tu te disais avant, donc on le disait, c'était les adversaires pour le 15 de France, c'est quand tu peux pas te louper aussi?
Ouais, et puis alors si je prends plus Aurélien Rougerie, il m'a fait vivre. Je suis passé pour un drapeau sur une action à Marseille où en demi-finale il me fait un énorme crochet. Je l'attends sur l'extérieur. Je dis il va pas oser me prendre l'extérieur, et puis il me prend l'intérieur. Je m'enroule complètement. Donc je balance le bras, et puis la puissance et la vitesse d'Aurélien, je m'enroule dessus. Donc après on l'a remis en boucle et je suis pas. J'étais pas à mon avantage.
Ah, mais c'est intéressant, ça t'est resté dans la tête, ça? Le fait que t'avais enroulé.
Alors, moi, j'avais eu tendance à essayer.
T'as défendu différemment?
Non, j'ai essayé de l'oublier, mais un an après, ou peut-être 2 ans après, on va jouer à Clermont, et Guy Noves, lui, m'est rentré dans la tête, par contre. Il m'a dit, tu vas refaire le drapeau encore sur Aurélien Rougerie, tu vas. Je sais que bon, on est tous d'accord, c'est lui qui est en équipe de France, toi, t'attends de savoir s'il est bon ou pas, tu vois. Ce genre de choses qui m'a émotivé, d'ailleurs, ce qui m'a évalué, de dire, oh, je lui avais répondu, hein. Je lui ai dit, si aujourd'hui je fais un truc et que Aurélien Rougerie marque pas, le bus m'appartient en retour. Pour rentrer, donc je rappelle Clermont-Toulouse, on passe par Brive, je suis de Brive, je lui ai dit, donc j'arrête le bus à Brive et la soirée, elle est pour moi. Et il m'a dit, ok. Et donc, ce match-là, j'ai la chance de marquer un bel essai. Et à 10 minutes de la fin, j'ai Aurélien Rougerie qui déboule en 1 contre 1. Et je me dis, il va me refaire l'intérieur, il va me faire l'extérieur, mais ça va vite. Et je sais pas, j'arrive à plonger du bon côté, j'arrive à le prendre, et là, je m'accroche, j'ai les doigts coincés dans sa chaussette, et je me dis, surtout, ne lâche pas. Il arrive à faire la passe, ça marque, je me relève, je regarde le banc, je fais, Guy, le but, c'est à moi. Rien à foutre du match gagné, perdu.
Énorme.
Et donc, on s'est réellement arrêté à Brive, on est arrivé à minuit et demi à Brive, il a posé le bus devant une boîte de nuit, briviste, et on est reparti à 4h ou 5h du matin.
C'est impossible.
Donc c'est pas eux qui m'entraînent, c'est plus Guy. Mais voilà, en tous les cas, ce que je veux dire sur des actions ou des numéros 10, au Gara, quand il était joueur, il avait une façon de poser son ballon quand il jouait au pied ou quand il attaquait à la main. C'est des gens que tu t'arrêtes, mais pas rentrer dans la tête à faire un focus sur un joueur.
Alizé, l'adversaire excellent qui te rentre dans la tête, ça t'est arrivé toi?
Oui, mais alors nous dans le tennis, il y a deux cas de figure. Il y a des joueurs qui rentrent dans la tête consciemment et en faisant exprès. Et puis d'autres qui le font pas exprès. Et c'est surtout par rapport à la gestion des blessures et de l'adversaire diminué. Parce que nous, on n'a pas un sport de contact, on a un sport où on voit l'adversaire de l'autre côté qui nous envoie des signaux plus ou moins importants. Et quand on sent qu'un adversaire est diminué, on se donne plus du tout le droit à l'erreur. Et c'est là où en fait, ça commence à nous rentrer dans la tête, puisqu'un joueur qui commence à boiter, qui commence à montrer des signes de faiblesse, qui... Un jour, j'ai quand même 11 jabbeurs qui a vomi dans le coin du court et elle a réussi à me battre, juste derrière. Derrière, j'étais tétanisée. Je me dis, mais la fille, elle a une gastro, elle est en train de vomir. Et elle ne pas extrême. 11 jabbeurs, c'est une fille des plus fair-play du circuit. Et... Sauf que c'est arrivé deux fois. Une fois, elle s'est tordue la cheville contre moi, elle m'a battue. Strap, arrêt de 15 minutes sur... Je me souviens, c'était à Eastbourne, sur Wimbledon. Elle se fait une entorse, elle tombe, elle crie, le match s'arrête. Je me dis, bon, elle va forcément abandonner. Elle reprend le match et elle me bat. Et elle me fait la même chose 6 mois plus tard à Charleston sur terre battue où elle vomit dans le coin du court et elle me bat.
Mais en fait, elle te rentre dans la tête parce que tu dis c'est humiliant si je perds.
Un peu. En fait, je me donne plus
donc
du tout le droit à l'erreur.
Donc elle faisait exprès de vomir.
Non, c'est ce que je dis.
Ça c'était
inconscient au final. C'est des choses qui arrivent. Parfois, on est diminué, mais en fait, c'est nous notre rapport à ce qui se passe de l'autre côté qui change. Ça veut dire que là, on se dit, tiens, la fille, elle est quand même au plus mal. Comment je peux perdre ce match? Je suis vraiment une merde. Désolée pour le terme, mais alors et puis alors à l'inverse, il y a des joueurs qui en jouent. Ceux qui, alors on va pas nommer, je sais que tu l'adores, Novak au début de sa carrière, il aimait bien jouer sur ce paramètre-là.
C'est ce que j'adorais chez lui.
Voilà, ça m'étonne pas.
Et il continue un peu.
Et il faisait des arrêts, il appelait les kinés, il faisait semblant qu'il était au bout de sa vie.
Ouais, il a continué à le faire longtemps.
Ça, par contre, c'est un truc qui est stratégique. J'ai un peu plus de mal avec ça. Je trouve que c'est anti-sportif pour moi.
Ça fait partie du jeu. Oui. Donc c'est pas anti-sportif.
C'est pas des valeurs que je partage. Mais en tout cas, c'est effectivement très efficace parce que couper le rythme, eh ben, ça donne le temps à l'adversaire de cogiter. S'il est sur le point de gagner, c'est le meilleur moyen pour lui faire perdre ses moyens, justement. Il y a vraiment des stratégiquement, il y a des choses à faire pour essayer de faire douter son adversaire, de lui rentrer dans la tête. Et dans le tennis, comme c'est pas un sport de contact, il y a plein de choses à utiliser.
Mais Alizé, finalement, le principal adversaire d'un joueur, c'est ce que j'allais dire.
C'est toi qui rentres dans ta tête.
Dans un sport individuel, je pense que le tennis doit être le sport
le plus psychologique qui soit.
Tu peux être un très bon joueur, mais si t'as pas le mental ou si tu...
On a beaucoup de temps pour se raconter beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a le moment où on joue le point. Là, le cerveau est plus ou moins en veille. Mais alors, par contre,
quand tu tapes ta balle avant de servir, quand tu vas récupérer.
Il y a toutes ces 25 secondes entre chaque point qui sont des temps creux où tu peux te raconter tout ce que tu veux au final.
En plus, regarde le golf.
Mais le golf, il y a énormément de temps creux.
Et moi, je suis admiratif de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Je serai jamais golfeur professionnel, mais j'aurais aimé savoir la sensation entre tu tapes ton coup, tu diriges pour aller à ton autre coup. Qu'est-ce que tu fais?
Tu fais un reset sur ton coup.
Tu visualises.
Mais quand
t'es dans un sport co, t'es souvent en action et t'as des potes qui peuvent rattraper. Mais au tennis comme au golf, tous ces sports.
Difficile d'enlever les pensées parasites.
Et puis quand tu t'en mets une en tête.
Et c'est là où les ancrages dans le moment présent, les sophros, les méditations dans les sports individuels, c'est hyper important parce qu'il faut réussir à mettre son cerveau justement en ralenti, en veille, se recentrer sur le moment présent.
Et au final, tu as
complètement raison. La personne qui te rentre le plus dans la tête au tennis, c'est toi-même.
Attends, mais Alice, toi, t'étais très expressive sur le terrain, quand même. Tu es sur tes sentiments et
oui,
tout ça.
Oui, mais ça m'empêchait pas d'avoir
T'en avais besoin, en fait.
Pensées parasites. C'est encore.
C'est une petite voix.
Deux choses différentes. Non, parce que.
C'est plusieurs petites voix.
Moi, j'étais expressive surtout parce que. Alors, on parlait de la colère tout à l'heure et du moteur que ça représentait. Pour moi, la colère, c'était un moteur dans mon jeu. Et du coup, parfois, de l'exprimer, ça me permettait de me mettre un coup de pied aux fesses. Mais en fait, d'exprimer sa colère, ça n'empêche pas tout ce discours interne qui se passe. Et quand l'adversaire en face montre des signes de fatigue ou qu'il est diminué, bah en fait ça amplifie tout ça parce que on se raconte des choses encore plus
exigeantes. Poker, ils peuvent envoyer des faux messages. Je fais semblant d'avoir des crampes, j'ai un petit souci. Tu joues dans la règle parce que tu as droit.
Exactement.
Et là après tu fais déjouer ton adversaire.
Après t'as les joueurs qui te rentrent dans la tête tactiquement. Ça veut dire qu'un joueur qui sait exactement ce que t'aimes pas, il va faire le schéma tactique qui fait que par exemple si t'aimes pas avoir une balle slicée courte sur le coup droit.
Est-ce qu'on appelle ça rentrer dans la tête? Parce que pour moi, c'est pas rentrer dans la tête, c'est juste jouer sur tes désavantages, en fait.
Mais c'est rentrer dans la tête un peu quand même tactiquement. Ça veut dire, c'est jouer le coup pour emmerder l'adversaire.
C'est comme par exemple France-Afrique du Sud, ils vont taper
Exactement,
une chandelle pour nous embêter.
Est-ce que c'est pas ça?
Non, ça, c'est pas rentrer dans la tête.
Parce qu'ils savent qu'on est plus faible
que t'es plus faible.
Donc, c'est pas
rentrer dans la tête. Ça, c'est pas rentrer dans la tête. C'est une adaptation tactique à un point faible.
Mais ils savent que les Français se savent.
Mais les Français le savent, donc ils sont pas dans ta tête.
Oui, mais ils ont joué là-dessus justement dans la petite vidéo sur le réseau
mais bien sûr
semaine, Plastic Bertrand et tout la musique ça plane pour moi ils ont remontré ça pour rentrer dans la tête. Fred, est-ce que toi il y a déjà un adversaire qui est rentré dans ta tête?
Moi je comprends pas la question. Qui te rentre dans la tête? Qui peut te rentrer dans la tête?
Il y a énormément de monde dans sa tête.
Non, mais Fred,
il y a plus de place.
Tu vas pas me faire croire qu'il y a jamais personne sur qui.
Tu sais pourquoi? Parce que je me mets suffisamment la pression, j'ai pas besoin que quelqu'un me la mette en plus.
Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Est-ce que tu rentrer dans la tête, c'est aussi une préparation à part parce que tu sais que sous les panneaux, tu vas avoir un mec beaucoup plus costaud qu'un autre.
Jamais. Alors, il y a une adaptation parce que à chaque match, il y a une vidéo, il y a une préparation différente du match. Parce que à chaque match et à chaque tactique, c'est différent. Mais jamais, je me suis dit, ce mec-là fait ça, il me fait peur.
Mais non, je m'en fous. Tu joues un cador.
Je mets suffisamment la pression.
Non, mais tu joues un cador sous les paniers. Tu sais qu'il prend plus de rebonds que toi. Tu sais qu'il est plus efficace.
Ben moi, je vais jouer à mon jeu. Je peux pas jouer autre. En fait, je vais pas adapter.
Toi, tu te concentres sur quoi?
Ben je me concentre sur moi, évidemment.
Non, mais toi, tu te concentres aussi pour faire déjouer les autres. Toi, t'étais plutôt le tortionnaire.
Moi, il y a deux choses. Déjà, je viens d'un sport où le trash talk, c'est une habitude, une coutume, donc ça trash talk énormément. Donc ça, tu te parles un petit peu, tu dis un truc. Et aussi, je me suis rendu compte que si tu contres le mec en face de toi à la première action, il va plus shooter de la même manière après. Fred. Donc tu rentres dans sa tête en mettant un contre directement.
Tu te préparais bien.
Non, pas du tout.
Ma première action, faut qu'elle soit concluante.
Oui, mais pas contre un mec particulier, contre n'importe qui en fait. Contre n'importe qui, ma première action, je veux que ça soit un contre.
Tu voulais impacter d'entrée de jeu pour rentrer dans la tête de tes adversaires.
Mais encore une fois, tu peux pas rentrer dans la tête parce que je me rends déjà suffisamment dans la tête moi-même. En fait, personne peut
comme
mettre plus la pression que je me mets moi-même. Donc
non, mais c'est pas une forme de pression. Je parle, c'est une. C'est pas la pression que tu te mets forcément que nous, c'est ce que toi tu imposes aux autres.
Mais moi je me concentre sur moi, donc je peux pas avoir de doute. Je peux avoir du doute par rapport au fait que est-ce que je vais être bon, est-ce que je vais pas être bon, mais contre n'importe quel adversaire, ni plus ni moins par rapport à un autre. En fait,
est-ce que l'épisode qu'on ressasse régulièrement dans ta carrière, c'est ce dunk de Carter en finale olympique, est-ce que ça c'est resté dans ta tête et est-ce que ça t'a gêné pour la suite parce que tu as été un peu moqué quelque part par la presse ou par les réseaux sociaux à l'époque.
Réellement, c'est resté.
Est-ce que c'est resté au fond de ta tête?
C'est resté en moi parce que oui, évidemment, j'ai eu plein de soucis, mais dès que tu rentres sur le terrain, pour moi, c'est fini.
Ouais.
Pour moi, il se passe plus rien. Et en plus, je suis pas
tombé. Mais ça, c'est ce que tu crois.
Je suis tombé sur le mec qui saute peut-être le plus haut de l'histoire de la NBA. Donc je me dis, chaque fois que je vais affronter un adversaire, il aura pas ses qualités physiques.
Fred, et donc, il fait ça en match de poule, tu retrouves en finale.
Je retrouve en finale et il se passe rien.
Non mais tu retrouves en finale, t'as une appréhension quand tu retrouves en finale?
Pas du tout. Oui, pas du tout.
Fred, mais t'es obligé de penser, c'est pas possible.
Mais pourquoi veux-tu penser au négatif?
Pour moi,
j'enlève ce qui s'est passé avant et j'essaie d'avancer, j'essaie de me concentrer sur moi. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je me considérais comme le meilleur.
Mais
par contre, j'avais ce truc de dire, je suis celui qui doit être concentré, je suis celui sur qui je dois me retourner et je dois pas me concentrer sur l'autre.
Ce que je veux t'expliquer, c'est que quand t'es dans l'action, pendant le match, que tu y penses pas, je suis d'accord, parce que dans un sport tu es tout le temps en action, tu cours, mais en amont.
Jamais.
en amont de ta préparation. Moi, c'est là où pendant le match, non, tu n'y penses pas parce que tu es dans l'action, tu réfléchis, même si on a des petits temps on-off et tu fais un petit reset, là je suis bien, comment ils font, peu importe. Mais c'est dans la préparation, les jours qui sont avant la rencontre, tu es bien obligé, déjà, tout le monde te le rappelle, les images sont là pour te le rappeler, les journalistes sont là pour te le rappeler, forcément... T'as un petit pourcentage où ils t'ont rentré dans le cerveau.
Jamais, alors vraiment, absolument jamais.
Sans moi, mon match. Je pense qu'il n'y a pas tous les gens qui ont cette capacité.
Je commençais à penser à mon match quand on faisait l'échauffement.
J'ai une petite anecdote qui me revient, c'est que moi j'avais une bête noire à l'époque qui s'appelait Francesca Schiavone. C'était il y a longtemps, c'est pour ça que ça m'était sorti de la tête. Donc vainqueur de Roland Garros, finaliste de Roland Garros, top 5 mondial, une italienne.
Bête noire de beaucoup alors.
Ouais, probablement. Mais à chaque fois qu'on se jouait, on jouait 4 heures. C'était vraiment, mais c'était des combats à n'en plus finir. C'était une des plus grandes guerrières. Et en fait, j'avais quand même beaucoup de mal à la battre. Et à chaque fois, c'était un combat physique qui était tellement douloureux qu'à un moment donné, ça m'était rentré dans la tête. Je me souviens un jour, le tableau sort dans un tournoi en Chine. Je vois son nom au premier tour. J'ai tellement somatisé ce match. En fait, je l'ai su 3 jours avant. Et en fait, elle m'était rentrée dans la tête de par son intensité physique, de par le combat qui m'attendait. Je le savais.
C'est rentré dans la tête ou c'est le contexte qui est rentré dans la tête.
Ou c'est peut-être les projections que je m'en faisais. Tout à fait. Néanmoins, je suis rentrée sur le court. Au bout de 4 jeux, je me suis fait un lumbago.
tu penses à jouer parce que
t'avais pas forcément que ça joue. J'ai tellement stressé de la jouer pendant 2 jours qu'au bout de. Je me suis on avait fait 4 jeux en 40 minutes, le classique entre nous. Et sur un coup droit, je me suis fait un lumbago. Je suis sortie du court et j'ai pris l'avion, je suis rentrée à la maison.
Elle a dû surprise parce qu'elle aussi, tu lui donnais du fil à retordre.
Et c'est ça où je regrette un petit peu de ne pas m'être mis dans ses chaussures à elle en me disant, mais si moi je ne suis pas contente de la jouer, forcément c'est réciproque. Et en fait,
moi j'aime l'image. On a le bilan, ce qui a voté Cornet, c'est 11-1 pour l'Italie.
Ah, c'est vrai.
J'aime l'idée de se dire, je me mets dans ses chaussures parce que dans la préparation, ça m'est arrivé aussi de dire, mais est-ce que les gens aiment te jouer?
Eh ouais.
Ah, c'est intéressant.
Et moi,
ça.
Personne n'aimait me jouer en plus.
Quels sont tes points forts et les gens, est-ce qu'ils aiment réellement te jouer, tu vois? Et bien là, tu vois, t'as ton petit ego, ta confiance qui remonte parce que si elle fait des matchs en 4 heures, c'est que toi aussi, t'es sur le court. Est-ce qu'elle aime les matchs en 4 heures? Et ce point d'amélioration devient un point fort, ainsi de suite. Ça, dans cette partie psychologique, tu vois, ça, c'était intéressant.
Est-ce que tu es rentré dans la tête de certaines joueuses que tu as affrontées? Est-ce qu'il y en a certaines que.
Personne n'est même joué, j'ai fait un.
Mais comment tu sais ça?
On m'appelait l'ulcère du circuit.
Moi, j'aurais aimé savoir, tu vois. J'aurais aimé.
Comment tu le sais, Alizé?
Je le sais parce qu'en fait, au fur et à mesure de ma carrière, je l'ai compris, on me l'a dit, mais j'ai pas c'est jouer là-dessus, tu vois. Moi, j'étais très focalisée sur moi, ce que je ressentais par rapport à mes adversaires, sur mes peurs, mes projections. Mais au final, j'oubliais souvent qu'une fille, quand elle voyait mon nom sur un tableau, elle savait qu'elle allait devoir jouer 3 heures pour me battre, que j'allais ramener 1 milliard de balles, que j'allais courir sur tous les points. Et en fait, personne n'est confortable dans ces situations. Et c'est vrai que Cédric a complètement raison. C'est bien de capitaliser aussi sur cette confiance-là, de se dire, mais en fait, elle est dégoûtée de me jouer.
C'est comme toi, Fred, en basket. Je pense que tu savais très bien que t'étais tellement dominant aussi.
Je manquais un peu de confiance en moi pour capitaliser là-dessus.
J'en avais suffisamment.
Bah, t'aurais dû m'en donner un peu.
J'aurais dû m'en donner un peu. Mais c'est vrai que moi, je savais que.
Après, le basket, c'est un truc très spécifique aussi. Vous avez tous un gros ego. Il y a beaucoup de trash talk.
C'est vrai.
Mais c'est vrai aussi dans la personnalité des.
Tu as raison de préciser. C'est vrai qu'au basket, on a de gros ego. On a cette capacité à se trash talker. Donc, on est
surtout les joueurs à l'intérieur.
On est habitué à donner des coups. Et moi, je savais surtout quand les mecs jouaient contre moi, ils se disaient, il est chiant, il est lourd, il va essayer de me donner des coups tout le temps et il va essayer de me contrer à chaque fois. Donc, forcément, le mec en face, c'était pas super.
Attends, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est Anthony qui a dit dans une interview ce matin, il a dit ce que j'aime bien dans les combats parfois, notamment contre les box, c'est quand le mec qui reçoit le plaquage, celui qui est au sol regarde son partenaire. Non mais une espèce de
tout à l'heure
on va en parler mais
tu sais ce que j'aimais plus?
Est-ce que tu regardais ça, ta victime?
Évidemment, et justement par rapport à ça, ce que j'aimais le plus, et je vais comparer un tout petit peu au rugby, alors bien que les impacts soient pas les mêmes, c'est quand le petit meneur me rentrait dedans et que je ne bougeais pas et qu'il est tombé au sol dans la foulée, il y revenait pas une deuxième fois, ils m'ont regardé derrière de dire qu'est-ce qu'il est costaud celui-là.
On va parler de cadrage débordement, tu regardais ta victime derrière?
Non, j'avais trop de respect.
Il est trop vite.
Mais
on se retournait.
Mais je savais qu'il savait. Voilà.
Et on peut avoir un autre exemple assez parlant hein, dans le tennis, c'est quand même quand Rafa avant de rentrer sur le court central de Roland-Garros et même sur les autres courts, il fait ses bonds là, de kangourou là, et qu'il saute à 2 mètres et que l'adversaire il est à côté, il se sent tout petit, il se dit non mais celui-là il est à fond.
Ah bah on se rappelle,
mais déjà le mec
Rude
a perdu le match dans sa tête en fait avant de rentrer sur le central.
Et toi quand tu marquais un point important, tu regardais ton adversaire
jamais.
Moi j'ai toujours eu peur de l'après.
Je
tu vois, de dire, attention, tu fais le beau, va falloir assumer. Donc, restons.
J'avais peur de ça, moi, je
cool.
pense.
Ouais, restons ouais, ouais. Cool. Alors, moi, j'adorais ça. Et au contraire, nous, on a un truc, avec le doigt, on dit non quand quelqu'un va essayer de marquer sur toi. Et moi, je le faisais tout le temps. Bon, parfois après, t'as le retour de bâton, évidemment. Mais quand tu le fais, quand ton adversaire te regarde, il se dit, eh merde. Et là, ça, c'est cool. Vraiment, c'est cool.
Allez, on referme la porte du vestiaire. C'était fascinant. J'ose plus vous regarder dans les yeux, du coup.
Attention. Ouais, baisse les yeux d'ailleurs.
Ok.
Tu sais que nous, on n'assume pas avec Cédric, donc que tu peux y aller.
Non, attends. Tu restes dans cette catégorie-là, laisse-moi. Moi, j'assume tout, si vous voulez.
Tu viens me dire tout à l'heure que si tu faisais le beau derrière.
Non, c'était du respect. Christophe, j'avais beaucoup trop de respect.
Christophe, dès 9h, Fred lui a fait non du regard, il a regardé dans les yeux, il a dit tu vas voir, je vais pas te lâcher. Eh, la bataille mentale, hein, Chris. Hein. C'est bon là-dessus.
J'ai gagné. Humblement, j'ai gagné.
On va décider ça au jeu du sport. Je suis là pour mettre juste de l'huile sur le feu, les amis. Allez, dans quelques instants, on va continuer à parler de France-Afrique du Sud. Les GG sur le buzzer. Thomas Ramos, est-il le vrai patron des Bleus? On va apprendre à le connaître. Tiens, Thomas.
Lui, il rentre dans la tête des gens.
Alors, on va en parler justement. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dernière ligne droite pour les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, avec Alizé Cornet, avec Fred Weiss, Cédric et Mons sont là, ils sont rentrés dans la tête de tout le monde, mais il n'y a personne dans la tête de Fred à part Fred.
Il y a beaucoup de monde, donc il n'y a plus de place.
Il n'y a plus de place.
C'est sûr, tout ça, il n'y a plus de place. Il y a même un Francis.
Donc,
je ne sais pas si vous connaissez la ref.
On va jouer dans les jeux du sport, les amis. Mais d'abord, tiens, on va accueillir Nicolas, qui est le gagnant des deux places pour France-Ukraine. Salut Nicolas.
Bonjour.
Et félicitations. Donc tu vas aller voir France-Ukraine. RMC t'offre ses places le 13 novembre au Parc des Princes. Tu sais déjà avec qui tu vas aller sur place?
Ouais, je vais y aller avec mon fils, il est pas au courant encore.
Oh là là.
Il est en train d'écouter en même temps la radio dans sa chambre.
Comment il s'appelle ton fils?
Lucas.
Eh ben Lucas.
Donc il vient d'être spoilé là.
C'est
en
magnifique.
Fait.
Ben ouais,
il est spoilé en même temps à la radio.
Ah ouais, mais c'est une super surprise. C'est génial.
C'est super. Ouais. Lucas, bravo. Et bravo d'écouter les grandes gueules du sport le samedi matin. Merci Nicolas. Et merci. On est ravis de vous offrir tout ceci.
Gagnez vos places pour France-Ukraine sur RMC avec Orange, partenaire majeur de la Fédération Française de Football.
C'est bien de rendre des gens heureux comme ça, tu vois. Fred,
ça fait cool, non, hein, je teste.
Bougon, je veux que la vie soit noire.
Tu lui donnes 1000 euros, il dit ouais, j'aurais préféré 2000. Tu lui donnes 1 million, j'aurais préféré 2 millions. Supportable.
Qu'est-ce que je vais faire avec 1 million?
Tout de suite, les GG. Antoine Dupont est toujours blessé, mais ne vous inquiétez pas. Ce soir, face à l'Afrique du Sud, le 15 de France a un autre patron.
RMC, les GG sur le buzzer.
Thomas Ramos, attention, parce qu'il est monté, Steve Colby. Il a contré Thomas Ramos. Ah, le sprint de chez Steve Colby sur son ancien coéquipier du Stade Toulousain, il a réussi à le contrer.
Normalement, il est derrière la ligne.
Bah ouais,
là quand même, je suis étonné.
Il est toujours étonné, Denis. Ça fait toujours
derrière la ligne.
Réécoutant, c'est fou ce qu'il a fait. Je suis étonné. Il est l'homme contré par Cheslin Kolbe lors de sa tentative de transformation en première mi-temps contre l'Afrique du Sud il y a 2 ans. L'un des symboles, malheureusement, de la défaite des Bleus contre les Box, encore rappelé par nos adversaires il y a quelques semaines pour appuyer là où ça fait mal. Mais Ramos est plus qu'un homme contré, les amis. 44 sélections avec les Bleus, un cadre, le buteur, et peut-être même plus en l'absence ou même quand Antoine Dupont est là. Les GG, je vous pose la question. Tiens, je vous pose la question. Thomas Ramos est-il le vrai patron des Bleus? Thomas Ramos est-il le vrai patron des Bleus? Fred?
Oui.
Alizé?
Qu'est-ce qu'il dit, Retière?
Elle a pas compris.
Elle a parlé avec Didier Retière.
Il m'a dit qu'il y avait un leader dans chaque secteur de jeu.
Ah, c'est normal. Hein. Les leaders de vestiaire, des leaders de parole.
Exactement. Et j'ai envie d'appuyer là-dessus.
Cédric.
Moi, je pense que c'est un leader de jeu et qui devient patron.
Christophe.
C'est un leader par intérim.
Ouais.
Parce que le vrai taulier. Ouais. Ouais. Va revenir.
Vous avez compris, si vous voulez jouer au ni oui ni non, comptez sur les grandes gueules du sport. Vous êtes au 32-16, WhatsApp 0610-424-424. Wilfried Templier nous rejoint.
Salut tout le monde.
C'est lui le leader.
C'est lui le leader, c'est le chef, le leader Maximo.
C'est une sorte de dictateur, c'est le Fidel Castro du rugby RMC.
Ah, mais il parle rugby.
Alors, Wilfried,
il n'a pas le physique pour.
On va l'écouter. Tu as suivi les traces de Thomas Ramos. C'est vrai qu'on ne le connaît pas si bien, finalement, Thomas Ramos. Tu l'as suivi ces dernières semaines, lui et son entourage. Tu en as ressorti que c'est un vrai patron.
Avec Ramos, c'est toujours la même chose. Il n'a pas les faveurs du pronostic à chaque fois, mais à la fin, il règle tout le monde. On va vous raconter ça. À Toulouse, quand même, quand il arrive en équipe première à 18 ans, face à ses idoles, pas évident, selon son pote Arthur Bonneval, coéquipier à l'époque et actuel ailier de Biarritz.
Il y avait des grosses personnalités, il y avait Clément Poitrono, Vincent Clerc, Hugues Médard. Au début, c'était quand même assez compliqué parce que voilà, c'était vraiment nos idoles, donc on avait beaucoup de respect. Quand il était jeune, voilà, il aimait beaucoup Maxime Médard. Il s'est retrouvé en concurrence avec lui. Maxime Médard et Johan Hugues, tu les connais, c'est qui aime des gros tempéraments. Franchement, au fil de ses prestations, il s'est fait respecter sur le terrain et après, tu te fais respecter dans le terrain et puis dans la vie, on te fait moins chier parce qu'il s'était quand même casse-couille.
Et au début, Ramos a peu de temps de jeu. En 2016-2017, il est même prêté en Pro D2 à Colomiers. Aurélien Becco, aujourd'hui entraîneur de Colomiers, mais troisième ligne à l'époque, se souvient de son premier match avec lui à Bourgoin.
Il a la pénalité de la gagne au bout du pied, il la manque. Et deux semaines après, même scénario à Oyonnax. Et voilà, sur un jeune joueur, il aurait pu avoir une sorte de petit démon pour revivre ce qu'il avait vécu récemment. Et puis là, il nous met la pénalité, ça me permet de ramener une victoire d'Oyo. Et puis après, il a enclenché sur une saison magnifique le concernant.
Cette saison-là, il inscrit 347 points, meilleur buteur de Pro D2 à 21 ans. Une saison charnière pour lui parce qu'il revient au Stade Toulousain et le manager Hugo Mola lui donne les clés. Arrière et buteur, il est champion deux ans plus tard. Le début d'une nouvelle ère pour cette génération. Et en bleu, le schéma va se reproduire, que ce soit avec Boutier, Dulin et même Jaminet. Il part numéro 2 et finit par régler tout le monde. Son pote Bonneval est admiratif.
Il a ramassé quand on était jeune, quand on te prête en Pro D2. Si tu fais pas la grosse saison, est-ce que tu vas revenir dans un club comme le Stade Toulousain? Et ses histoires en équipe de France, on lui a toujours mis un mec devant au lieu de l'installer. Je pense que ouais, ça l'a forgé. Bah, ça lui a mis encore plus de rage de réussir.
Cette rage de réussir, c'est important ce terme. Ce qui lui fait aussi régler la concurrence avec Melvin Jaminet à Toulouse ou en bleu en 2022. Et là, il a explosé. Ça fait trois fois qu'il termine meilleur réalisateur du tournoi Destination. L'hiver dernier, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du rugby français. Devant Frédéric Michalak, la confiance de ses coéquipiers à ce niveau l'a changé. Ramos l'avoue.
C'est sûr que le fait de pouvoir jouer aussi au niveau international, des gros matchs ces dernières saisons, ben, m'a permis aussi de prendre encore plus confiance en moi et aussi certainement d'absorber aussi la confiance que le groupe peut me rendre. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
Après, il reste un compétiteur de dingue sur un terrain, capable de mettre la pression sur les arbitres, sur ses coéquipiers et même sur ses entraîneurs. Son coach Poitrono à Toulouse en atteste.
C'est pas facile tous les jours parce que c'est un mec qui pige le rugby et qui est capable de vous remettre en question. Donc il faut être assez précis avec Thomas.
Ramos est exigeant, c'est un patron, même si parfois ça a pu être tendu selon Arthur Bonneval.
C'est son ADN, ouais, c'est un enfer. Même des fois, il est un peu chiant parce qu'il parle beaucoup, il parle dur aux avant. Mais je pense que tout ce qu'il dit, quand même, il a 90% du temps raison. Au début, je pense que les gros, ça devait vraiment un peu les faire chier de se faire parler un peu dans la bouche comme ça. Mais au final, ils le respectent et ils savent que c'est pour leur bien et pour le bien de l'équipe.
Et pour finir, pour bien comprendre son rôle maintenant en équipe de France, on termine avec l'entraîneur des trois quarts, Patrick Arletaz. Écoutez, ça résume tout.
Même à la cantine et tout. C'est lui qui décide des places à la cantine.
Excellent, c'est lui qui décide des places dans la cantine. Merci Wilfried. Hey. On connaît un peu mieux Thomas Ramos. Attention, pas manger n'importe quoi quand même hein, ce matin. Vous avez écouté en écoutant l'ami Bonneval. Les amis, est-ce qu'il est le patron, le vrai patron de l'équipe de France? Tiens, Cédric.
Dans le jeu, oui, Ramos. Parce qu'il est positionné à l'arrière. C'est une position stratégique. On le voit monter souvent en 10 pour prendre le relais sur Romain Tamac. Et puis, c'est tout ce qui peut amener comme énergie positive sur le terrain. Entre, on va en touche, on prend les points, haranguer ses avants pour aller plus loin jusqu'aux adversaires. On l'a vu, hein, mettre des petites tapes derrière la tête à ses adversaires, se choper avec eux par le col. Il est courageux, il a un tempérament. Même lui-même le dit, hein, il faut qu'il gère cette petite zone, on va dire, où il perd un peu d'influx et d'énergie. Mais patron du jeu, oui, patron du vestiaire. Il y a un joueur qui prend beaucoup de place. Il n'est pas là, certes, c'est Dupont, mais il y a des jeux longs. Il y a plusieurs types de capitaines. Lui, c'est un capitaine d'efficacité, pour ne pas renoncer toujours vers l'avant. Après, je pense aussi que dans la vie de tous les jours, ça doit être très compliqué de le driver parce que Clément Poitrou le dit, Arletas le dit. Et puis il faut parler rugby avec Thomas Ramos. Du moins cette génération-là, il faut la nourrir. Quand tu as Ramos, tu peux pas lui expliquer que l'exercice est pour ça. Il y a là parce que lui, il va venir. Il est très challenging comme garçon. Du moins Mola, Poitrono ou Arletas en équipe de France, quand il prépare les exercices, ça doit pas être.
Il est en train de devenir le patron. Tu disais.
Ouais. Puis c'est. Moi, je pense que ça devient un patron parce que par ses prestations, par sa capacité à jamais renoncer, par ce qu'il est lui-même, s'il arrive à gérer cette petite zone où il perd de l'influx et il peut s'amener des adversaires à dos, parce que ça compte aussi. Donc après, t'es dans le viseur des mecs, donc tu peux perdre aussi en efficacité. Et puis, on le sait tous très bien que c'est un futur grand entraîneur.
Christophe, tu commentes les matchs du 15 de France, tu l'as beaucoup observé. Thomas Ramos, quand Dupont était là aussi, c'est ce que t'as observé également.
Oui, non, patron. C'est, je pense qu'aujourd'hui, quand Galtier construit son équipe, il commence par le numéro 15. Je pense que c'est le mec le plus indispensable.
Quand il veut le mettre en 10.
Ou alors, quand il le met en 10, parce que le garçon est capable de jouer à tous les postes stratégiques. Il avait même pris la place l'année dernière de Jalibert. Hein, c'est-à-dire que Galtier considérait que Ramos en 10 était plus fort que tous les autres, sauf peut-être que Ntamack. Donc, c'est un garçon sur le terrain qui est indispensable. Après, j'ai pas l'impression qu'il veuille être le vrai patron de cette équipe de France. Il est coéquipier avec Antoine Dupont. Il sait qu'il n'y a pas de Dupont. Il est sans doute le premier adjoint d'Antoine.
Et ça lui va bien. Il travaille. Il aime bien être numéro 2 comme ça.
Lui, c'est un leader. Tu crois qu'il est en concurrence avec Dupont, Wilfried?
Je vous en parlerai, mais je pense qu'à Toulouse, l'équipe de France ne lui a pas toujours donné de la confiance. Fabien Galtier a mis énormément de temps à lui donner cette confiance. Donc, il commence à s'imposer en équipe de France. Par contre, à Toulouse, Dupont est important, mais Ramos dans le vestiaire,
c'est le boss. Les leaders de vestiaire et de.
Oui, moi je trouve effectivement que c'est important d'avoir deux leaders, mais alors, je vais pas repasser après trois experts rugby,
Moi,
il me fait penser à Laurent Sierra. Une bouche énorme qui connaît le basket de façon incroyable, qui challenge tout le temps, qui gueule après les grands. Moi, je sais qu'il m'engueulait tout le temps, donc vraiment, je sais que c'était une bouche énorme.
Comment ça faisait?
Mais, il faisait comme tu essayes de le faire, mais t'as pas ce carré. c'était pas toujours facile, mais je trouve que c'est hyper important d'avoir des mecs comme ça qui sont des leaders parce qu'ils comprennent le basket, parce qu'ils vont.
Parce que t'avais Antoine Rigaudot qui était capitaine.
Pour moi, il y a les stars, il y a une star dans une équipe, et il y a ce leader de vestiaire qui a cette bouche, qui a cette connaissance du basket et ce respect.
Encore, le leader de vestiaire, mais Thomas Ramos, c'est un leader de jeu. Il est capable de renverser un match par son jeu au pied, par sa création, par la façon dont il a de s'imposer sur les autres.
Pour nous néophytes, on a quand même l'impression que Dupont est au-dessus en termes de qualité de jeu, et donc ça serait le numéro 2 par rapport à ça, mais par contre dans
au-dessus en termes de popularité aussi, dans la popularité aussi, des Français, Antoine Dupont est quand même beaucoup plus connu que Thomas Ramos. Alors ça fait pas lui le patron du rugby français, mais en tout cas dans l'esprit commun ça aide. Et ce que me disait Didier Retière, avec qui j'ai pu échanger hier, qui est notre nouveau DTN. Du coup, on a quelqu'un du rugby chez nous et ça fait du bien.
Bah, vous allez gagner alors.
Ouais. Non, mais il est vraiment top. C'est que grande force de Antoine Dupont aussi, c'est qu'il donne l'exemple en permanence. Donc, on parlait de patron du jeu, patron du vestiaire. Et c'est vrai que le patron du vestiaire, c'est aussi celui qui donne l'exemple dans les entraînements, de par son exigence, de par sa discipline. Je dis pas que Thomas Ramos ne l'a pas. C'est aussi quelqu'un de très exigeant, mais plus challengeant. Ils ont vraiment des profils hyper différents, en fait, tous les deux. Ce qui pourrait en faire quelque chose de très complémentaire. Si jamais les égos arrivaient à s'aligner.
Mais comme il y en a dans tous les sports, il y a Michael Jordan et Scottie Pippen, par exemple.
On ne peut pas parler de Michael Jordan quand on connaît le basket et pas de Scottie Pippen qui était son lieutenant, mais qui était peut-être moins vocal que ça. Il y avait d'autres joueurs qui étaient plus vocaux.
Mais je voudrais bien savoir avec toi, Wilfried, quel est le rapport justement entre les deux, entre Dupont et Ramos, qui sont les deux tauliers et du Stade Toulousain et de l'équipe de France, savoir quels sont leurs rapports. Est-ce que l'un respecte l'autre? Est-ce que l'un se met au service de l'autre? Est-ce que l'un a envie de bouffer l'autre? Ou alors ils sont vraiment.
Je pense que Thomas Ramos attend le retour Antoine Dupont
pour le challenger
avec impatience sur le terrain, de voir comment Antoine Dupont sera sur le terrain dans les semaines qui viennent. Mais juste, c'est Thomas Ramos sur le terrain, j'ai jamais vu ça, moi. C'est d'engueuler tout le monde.
Tu l'as connu, c'est du Garba puissance 10.
Observez-le.
Du Garba Josa.
Dès qu'il fait ça tous les ans, maintenant qu'on avait dit tout ça, observez-le quand il y a un raté dans son équipe. Regardez-le, le body language.
Mais on va aller voir, on vous écoute à la radio.
À l'inverse, il y a des challenges, des petits challenges dans les matchs. Moi, je sais maintenant, ça peut lui arriver de louper un ou deux coups de pied, mais quand il commence à mettre les coups de pied, quand il y a des coups de pied décisifs, je peux vous dire celle-ci, il va la mettre. Il avait fait un 100% samedi dernier contre le Stade Français. Il avait une dernière transformation qui ne servait à rien. Elle était en coin. Et il avait fait 100% jusque-là. J'étais sûr qu'il allait la mettre. Et il l'a mise.
Est-ce qu'il va faire attention ce soir quand Colby va monter sur les transformations ou sur les pénalités?
Bien sûr, évidemment.
Qui est le vrai patron des Bleus sur RMC? Christophe Cessieux ou Wilfried Templier?
Templier, il m'a bouffé.
Thomas Ramos, évidemment, va le suivre.
Fred Veil, c'est Jacques.
Ce soir, 21h10, coup d'envoi d'Arsenal. France, Afrique du Sud. Dès 20h, on vous retrouve tous les deux au Stade de France. Il y aura également Denis Charvet, il y aura également Johan Huger, il y aura Pierre Thévenet, il y aura Julien Landry. Tout le monde poursuit cette grande soirée jusqu'à 23h30. On repousse la Foot pour laisser la place au rugby. Tout de suite, les jeux du sport sur RMC. Restez avec nous pour la fin de l'émission. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, les GG, c'est du 2 contre 2. Vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes. Alizé Cornet avec Fred Weiss et Cédric Emmans et Christophe Cessieux. Ensemble. En plus, ils sont pas sympas. Voilà, c'est ça, mais c'est bien.
J'ai gagné, toi.
Alors, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il y a une nouveauté. C'est la question impossible qui est activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer. Ok, vous pouvez activer une question impossible. Seul l'un d'entre vous par émission peut l'activer. Une bonne réponse sur la question impossible et c'est 2 points pour vous. Ça vous permet de revenir, par exemple. En revanche, une mauvaise réponse et c'est 1 point en moins pour votre équipe.
Et comment on l'active la question
impossible? Tu dis question impossible.
Le plus
je l'active.
Possible.
Ouais, tu dis quand tu veux.
Bah, vas-y, dis-le maintenant.
Attention, les gars, la question impossible, c'est vraiment impossible.
Okay. Et c'est la personne qui le dit qui joue.
C'est la personne qui le dit et la seule à jouer, effectivement. On accueille les auditeurs, Angélique et Johan au 32-16. Bonjour les amis.
Bonjour.
Angélique, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe. Tu veux être avec Alizé Cornet et Fred Veil, soit avec Cédric Emmans et Christophe Cessieux?
Alizé.
Ok, Angélique.
Bienvenue, Angélique.
Angélique bon avec Alizé et donc Johan avec Cédric Emmans et Christophe Cessieux. C'est parti, les amis. Première question, question à une seule réponse. Je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission. On va voir si vous êtes attentifs. Quel sera le futur adversaire de l'équipe de France de foot?
Ukraine.
Oui, Fred.
Oui.
Un point pour Fred. Christophe est déjà au fond du trou. C'est incroyable. Question à une seule réponse, les GG. Qui a dit « J'aimerais bien m'asseoir avec Trump et discuter de longues heures de la paix dans le monde »
CR7.
Cristiano Ronaldo, c'est bon.
Putain, mais t'es en fire.
Non, mais je connais les réponses.
Ah. Oh, il faut se rapide.
C'est incroyable.
On a de la chance, Angélique. On est en bonne compagnie, là.
Il faut se réveiller. L'équipe est immense, c'est sûr. Allez, question pour les auditeurs. Question pour les auditeurs. Donc, pas un mot des GG, s'il vous plaît. Angélique et Johan, qui est la nouvelle capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup?
Alizé Cornet.
Alizé Cornet, Johan. Bien joué.
Merci, Johan.
Angélique, t'as choisi ton équipe. Elle s'appelle Alizé Cornet.
2-1, ça revient. Allez, Christophe, il faut revenir. Le body language, c'est important. Le langage corporel, on dirait que t'as perdu déjà.
Non, mais tu veux que des questions qui ne m'intéressent pas. Non.
D'accord, il faut qu'on fasse des sujets qui l'intéressent. Ouais. Question à une seule réponse.
Du
Christophe.
Coup, c'est CR7, si tu veux.
D'accord, on va faire la question de vélo, en fait. Quel Français est assuré de finir numéro 1 français à l'ATP cette saison? Numéro 1 français à l'ATP.
C'est voilà.
Une seule réponse.
Rinderknecht.
Et voilà, Rinderknecht.
Mais c'était
ta question.
Oui, je sais.
Tu sais en quoi fait, c'est cette question va nous permettre de lui rentrer dans la tête. Voilà.
Mais
c'est ça.
C'est là qu'elle n'était pas arrivée à l'émission encore. Une intervention
sur celle-là, elle a fait pas.
À partir du moment où Georges dit je, c'est dans la tête. Il me rentre dans la tête tout seul, Georges.
Deux questions à une seule réponse. Quel sportif s'est clashé avec Aurélsan sur les réseaux sociaux?
C'est moi largement.
Fred, il a été plus rapide.
L'avis de la VAR de Max Abolin, notre producteur, Fred Weiss.
Honnêtement, c'est Fred, mais c'est vrai qu'il est vendu.
3-2 pour l'équipe Cornet Weiss. Question auditeur, Angélique et Johan, c'est pour vous. Il faut penser au match d'après, Alizé. Question auditeur, Angélique Johan. La France a perdu contre les Box en Coupe du Monde il y a 2 ans. À quel niveau de la compétition?
Demi-finale.
Non.
Angélique,
t'as dit quoi? Finale. Eh non, c'était quart de finale. Vous avez faux tous les
deux. Il faut suivre le rugby aussi.
Pas de points. Allez, question à élimination. Deux points en jeu, les amis. Je rappelle, vous répondez chacun à tour de rôle.
Ah non,
une erreur et vous êtes éliminé.
C'est horrible.
Les Jeux Olympiques d'hiver Milan Cortina vont débuter dans moins de 100 jours. Citez-moi les 20 pays ayant gagné le plus de médailles aux Jeux Olympiques hiver et été réunis. Les 20 pays ayant gagné le plus de médailles. Wow. Alizé, quelles nations ?
France.
France, cinquième.
États-Unis.
États-Unis, c'est bon. Fred.
Canada.
Canada, c'est bon. Onzième. Christophe.
Autriche.
Autriche. Ouh là là, 20e, c'est chaud, c'est le dernier.
Au jeu d'hiver.
Jeu d'hiver et d'été réunis, j'ai dit. Attention, vous avez écouté l'intitulé.
Moi, j'ai compris que d'hiver.
Ouais, vous écoutez,
j'ai
les amis.
Que d'hiver.
Ah, non.
Okay. C'est à moi.
C'est à toi, Alizé.
Chine.
Chine, c'est bon, évidemment.
Allemagne.
Cédric. Allemagne, c'est bon, deuxième. Fred.
Russie.
Russie. Oh, ouais, Union Soviétique, allez, j'accepte ça. Christophe.
Et Grande-Bretagne. Russie.
Grande-Bretagne, quatrième, c'est bon. Alizé.
Italie.
Italie, sixième, c'est bon. Cédric est bon.
Suède.
Suède, huitième, c'est bon. Fred.
Espagne.
Cinq. Espagne. L'Espagne, c'est pas bon. Éliminé, Fred. Christophe.
Japon.
Le Japon, c'est bon. Neuvième, Alizé.
J'ai combien pour Australie?
Australie, c'est bon. Dixième, Cédric. Cinq. Quatre.
Pays-Bas.
Trois. Pays-Bas, ouais. C'est bon. Dix-septième, Christophe.
Kenya.
Kenya. Kenya, c'est pas bon. Éliminé, Christophe. Attention, il reste plus que Alizé et Cédric. Alizé. Jeux d'hiver et d'été réunis, je rappelle. 5, 4, 3.
Suède.
2. Suède, déjà dit. Éliminé, Alizé.
Déjà dit.
Déjà dit, c'est gagné. Cédric, t'en as un encore ?
Oui, je pensais
Norvège.
À la Norvège.
La Norvège, exactement. C'était bon. Attention, vous passez devant l'équipe aimant Cessieux, d'un point. Question auditeur, Angélique et Johan, c'est pas terminé. Qui est capitaine du 15 de France ce soir ?
Ramos.
Non.
Dupont.
Aucun des deux, c'est Ficou. Et c'est terminé. Victoire de l'équipe Cessieux et Mans sur
le jeu. Ah non, là, vous êtes rentré dans le cerveau.
Sur la question.
On vous a vu reconnaître la question. Complètement décent. Regarde, Alizé, il faut que je fasse une photo.
Félicitations, Johan. Tu remportes un maillot de rugby sport d'époque, fabriqué en France, le maillot de 1958. Celui de la première tournée victorieuse des Bleus en Afrique du Sud. Bravo à toi.
Merci. Jouez au jeu du sport sur RMC avec Sport d'époque. Des maillots qui ont de la gueule, comme le rugby d'hier et d'aujourd'hui. Maillot de rugby haut de gamme, fabriqué en France avec passion.
Vous n'avez pas activé la question impossible, Alizé.
C'était quoi la question impossible? C'était quoi? C'était juste pour savoir?
Mais non, on va pas vous la donner parce qu'elles sont tellement dures à préparer.
On l'a gardé pour la prochaine émission.
Mais c'est des questions qui concernent vos sports. Hein. Par exemple, Alizé, c'est une question impossible tennis. Cédric, c'est une question impossible.
Ah, mais c'était bon à savoir, ça. Tu dis pas tout aussi, Georges.
Eh oui, mais sinon, c'est
tu nous dis pas tout.
Pas marrant. Merci, Christophe. Ce soir, dès 20h au Stade de France pour la prise d'antenne.
Un peu plus tard, vers 20h45. Ils seront là en place jusqu'à 23h30. Pour débriefer cette incroyable
France-Afrique du Sud. Cédric, merci. On va gagner ce soir, Fred ? Rapidement, oui, non ?
Moi, Cédric, c'est pas Fred.
Mais Cédric.
Je pense que oui, il y a les planètes qui sont en train de s'aligner depuis ce matin à 9h.
Merci, Fred.
Merci beaucoup.
Merci, Alizé.
Merci à tous.
Merci, la première d'Alizé comme capitaine. Toujours pas une victoire au jeu du sport.
Rinderknecht, il va me rentrer dans la tête.
Le capitaine sent bon.
Allez, demain, Philippe Saint-André sera là, Marc Madio, Christophe Cessieux également et Sarah Pitkowski. Tout de suite, les Paris RMC.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.